بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui dans ce séminaire qui a été organisé par les frères du Markaz Al-Furqan en Belgique. Et le thème de ce séminaire, c'est relié à la parole célèbre de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui mentionne et qui clarifie que ce qui va permettre au dernier de cette Ummah de se réformer, eh bien, c'est exactement ce qui a permis au premier de cette Ummah de se réformer dans leur religion et dans leur compréhension. Et donc, on regarde ce qui a été utilisé par les salafs pour réformer leur religion. Et on constate qu'ils ont utilisé le Coran et la Sunna. Et que c'est avec le Coran et la Sunna qu'ils ont réformé leur compréhension, leur pratique, leur foi, leur société, hein, sur tous les plans, dans tous les aspects de la vie. Ils se sont basés sur la révélation. Et c'est ça qui a été la source, c'est ça qui a été le fondement. C'est ça qui a été la référence pour eux, pour réformer leur vie. Toutefois, à notre époque, on a, et ça c'est pas récent, c'est pas nouveau, ça fait quand même, si on veut, beaucoup de temps, si on regarde dans le développement de l'histoire islamique, que des gens sont apparus et qu'ils ont voulu essayer de prendre comme référence autre chose que le Coran et la Sunna. D'accord ? Et on a vu certains amener des idées philosophiques, d'autres se sont basés sur des systèmes politiques ou des idéologies qu'ils ont empruntées des koufars, et d'autres sont venus avec des principes ou des pratiques ou des croyances tirées du mysticisme qui existait chez les juifs et chez les chrétiens, ou chez les bouddhistes et les hindous, et chez les grecs de l'antiquité et autres. Et ils ont voulu essayer d'adopter ça à l'islam. Et ils ont ramené ce qu'on appelle le tasawuf, ou le soufisme. Et d'autres sont arrivés avec d'autres choses également. Tout ça pour dire qu'ils ont pensé, ces gens-là, qu'ils allaient pouvoir amener une réforme et corriger ou, aider les musulmans à sortir de leur situation difficile en se basant sur autre chose que le Coran et la Sunna. Et c'est de là qu'ils ont dévié. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de revenir à cette parole de l'imam Malik. Parce que cette parole de l'imam Malik, elle nous fait comprendre que toutes ces méthodes et tous ces moyens que ces gens-là ont ramenés, eh bien, elles n'amèneront pas une réforme réelle de la société musulmane, et elle ne va pas à aider les musulmans à atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire les objectifs qui vont permettre aux musulmans d'atteindre l'agrément d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, si on regarde, par exemple, les koufars aujourd'hui dans leur société, c'est vrai que peut-être qu'ils ont atteint certains bienfaits dans les aspects matériels et dans les questions de la dunya. Et donc, certains musulmans prennent ça comme référence et puis ils vont dire, eh ben c'est ça qu'on veut obtenir. On veut avoir des beaux bâtiments, on veut avoir des belles routes, on veut avoir des ponts, on veut avoir des endroits propres, des endroits qui sont beaux. Et pour y arriver, eh bien, il faut suivre l'exemple de ces gens-là. Il faut suivre l'exemple des koufars pour obtenir les résultats que eux ont obtenus. D'accord? Toutefois, alhamdulillah, rabbil alamin, si on comprend, nous, notre religion comme il faut, eh bien, on va voir que les vrais objectifs et les vrais résultats qu'on cherche à obtenir, si on suit notre religion, on va les atteindre et même qu'on va dépasser, peut-être ce que les koufars ont pu atteindre comme réussite ou comme bienfait dans la dunya. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce qui est relié à notre religion, c'est que en même temps, on sait qu'on va le faire d'une manière qui va être satisfaisante pour Allah Azzawajal, qu'on va obtenir l'agrément de notre Créateur et qu'on va être en accord avec ce qu'il nous a ordonné de faire. Et en même temps, on aura non seulement le succès dans ce bas monde, mais le plus important, c'est-à-dire la réussite dans l'au-delà. Et c'est ça qui nous distingue principalement des koufars. Parce que eux, ils ne cherchent que la réussite de ce bas monde et ils ne pensent pas du tout à qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ceci nous amène donc à parler du sujet que j'ai choisi, hein, du sujet dont j'ai choisi de parler avec vous aujourd'hui, et c'est la question de la hijra. Et on entend beaucoup parler de la hijra maintenant et les gens commencent à comprendre et à connaître un peu qu'est-ce que ça signifie. Toutefois, j'ai remarqué que beaucoup de musulmans, et même parfois certains parmi les frères qui sont sur la sunna et qui suivent la compréhension des salafs, certains parfois ils passent à côté de certaines notions très importantes qui ont attrait à la hijra, et ils ont parfois des erreurs dans leur compréhension de ce que signifie réellement la hijra. Donc j'ai voulu parler de ce sujet-là, mais en même temps faire un rappel, d'accord? Faire un rappel sur les éléments qui parfois ont fait en sorte que les musulmans s'éloignent de cette signification-là. Et à la base, c'était une khutba que j'avais donnée ici à Montréal sur la hijra. Donc c'était la fitna de la dunya versus la hijra vers les pays musulmans. Et j'ai fait cette khutba et j'ai fait la traduction en français de cette khutba, sauf que malheureusement j'avais oublié de l'enregistrer. Et les frères qui ont assisté à la khutba à ce moment-là m'ont dit qu'ils avaient trouvé que cette khutba était très bénéfique et ils trouvaient dommage que elle n'ait pas pu être partagée et que les gens qui n'étaient pas présents n'aient pas pu profiter de cette khutba-là. Donc j'ai décidé de la refaire comme sujet aujourd'hui dans cette conférence reliée à notre thème de la parole de l'imam Malik, que rien ne va réformer cette umma excepté ce qui a été utilisé pour la réformer par les premiers musulmans. D'accord? Donc ça, c'est le sens. Donc, Inch'Allah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous lire cette khutba et après, Inch'Allah, traduire et rajouter des commentaires. Et aussi, je vais me baser un peu sur la parole de les paroles de Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans son livre Ar-Risala at-Tabukiyya, parce que c'est un sujet dans lequel il parle de la hijra, et il approche la question de la hijra d'une façon vraiment particulière, et c'était justement le titre que j'ai donné à cette conférence, c'était la hijra est une adoration. Et ça, c'est très, très important et c'est fondamental pour nous de comprendre cette importance-là. Et pourquoi c'est ce qui fait toute la différence? Parce que si on regarde la hijra juste simplement sur le plan matériel et juste le fait de quitter un endroit pour aller dans un autre pour améliorer notre état, par exemple, sur le plan matériel ou économique seulement, eh bien, à ce moment-là, il n'y aurait pas de différence entre ce que font par exemple certains parmi les koufars qui vont s'expatrier dans d'autres pays puis aller vivre là-bas pour vivre leur vie en quelque sorte, et par exemple ils sont pas satisfaits de la situation dans leur pays d'origine et ils décident que pour eux aller vivre ailleurs c'est mieux, alors ils partent est-ce que nous notre hijra en islam c'est comme ça ou bien il y a un sens plus profond et une réalité plus profonde? Parce que il y a quelque temps, je reviens d'un voyage que j'ai fait, par exemple, j'étais en Algérie Et j'ai rencontré certaines personnes. Et parmi les gens que j'ai rencontrés, même parmi les gens qui ont un lien de parenté avec la famille, et qui disaient, par exemple, on m'a posé la question. Ils m'ont posé la question en disant, si on regarde uniquement, donc on m'a dit, mets la religion de côté, c'est-à-dire, oublie la religion. Si on regarde uniquement les questions matérielles et la dunya, qu'est-ce que tu préfères? Vivre, par exemple, en Europe ou en Amérique, ou vivre dans un pays musulman? Et, yani Allah al-Musta'an, de présenter la question de cette façon-là ou de poser la question de cette façon, c'est yani, complètement l'opposé de la signification parce que la hijra, c'est basé sur le fait de changer de lieu d'habitation pour Allah Azzawajal. De quitter un endroit dans lequel yani, tu ne peux pas pratiquer ta religion comme il se doit, et d'aller dans un autre endroit dans lequel tu vas pouvoir appliquer ta religion comme il faut, peu importe la réalité ou la situation économique, même si tu t'en vas vers un endroit où tu vas avoir de la difficulté sur le plan économique, où tu n'auras pas tout le confort et l'aisance et tout le bien que tu désires ou que tu souhaiterais avoir, ou les choses que tu n'auras pas tout ce que tu avais dans ton pays d'origine. Tu vas le quitter, tu vas quitter tout ton confort, toute ton aisance, tout ce que tu as de bien, ton argent, ta famille, tes proches, tes biens, et tu t'en vas dans un autre endroit pour Allah Azzawajal. Donc tu vas laisser ta dunya dans le but de préserver et de garder ta religion. Ça, c'est principalement yani, ce que faisaient les musulmans à l'époque. Et c'est ça qu'on va expliquer en fait. Donc, si on comprend les choses de cette façon, je pense que la réponse, elle devient claire et facile à comprendre. Mais si on regarde les choses sur le plan matériel uniquement, eh bien, c'est évident qu'à ce moment-là, les choses deviennent difficiles à comprendre pour certaines personnes. Parce qu'ils ne placent pas la religion comme étant l'élément principal dans leur vie. Et ils n'ont pas soumis leur visage à Allah Azzawajal. Et ça, on pourra en reparler plus tard. Donc, عباد الله, فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه أحمد. وعندما يكون سعي الإنسان وحرثه لأجل متاع الدنيا الزائل من مال أو جاه لها يسعى ويكد ولأجلها يعطى ويمنع وعليها يرضى ويحزن هي أبدا غايته ومقصوده فإنه خاسر دينه وهالك لا محالة ولا يزال الحرص على المال والجاه بالعبد حتى يسير عبدا لهما ثم يفسد ذلك دينه إفسادا أعظم من إفساد الذئاب الجائعة في الشياه الداجنة. Donc, l'introduction ici, on dit que yani, notre prophète, Mohammed a.s., a dit dans un hadith, l'explication de ce hadith, si on veut, c'est que yani, quand on compare, si on veut, on peut comparer le désir d'une personne, le désir qu'il a pour l'argent et pour la noblesse ou pour le statut social ou pour le pouvoir. Donc ça, c'est deux forces, deux choses que certaines personnes aspirent à obtenir, l'argent et la noblesse, le statut. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare ces deux choses-là, l'argent, les biens et le statut, il les compare à deux loups affamés. Et il compare la religion d'une personne à des moutons. Et il dit que ta course et ton désir ardent pour obtenir de l'argent et obtenir un statut. Ces deux choses-là sont plus dangereuses pour ta religion que deux loups affamés qu'on a lâchés ou envoyés sur des moutons. Donc ça, c'est pour dire que, en réalité, si tu cours derrière l'argent, si tu cours derrière le statut et la noblesse, eh bien, ça peut corrompre ta religion et ça peut être un grand danger pour ta religion. Et c'est un danger qui est comparable à deux loups affamés qui courent derrière des moutons. Donc, c'est comme si on disait que la course effrénée de la personne derrière le champ de labour de cette dunya et les désirs éphémères de ce bas monde, quand tu cours derrière l'argent, hein, l'argent et le statut, eh bien, quand tu fais tous tes efforts de ta vie dans le but d'obtenir ces choses-là, hein, tu donnes pour ça, tu retiens pour ça, tu es heureux et satisfait par rapport à ça, et tu es attristé lorsque tu, hein, ne l'obtiens pas. C'est ton but et c'est ton objectif ultime dans ta vie et le but de ton existence. Alors à ce moment-là, ça veut dire en réalité que tu perds ta religion et que tu vas périr, hein, sur le plan spirituel et sur le plan religieux. Hein? Et donc, la course effrénée d'une personne et son désir ardent d'obtenir de plus en plus d'argent et d'obtenir de plus en plus de statut et de notoriété et de pouvoir, hein, ça t'amène à devenir même esclave de ces choses-là. Parce que tu deviens esclave de ça puisque c'est pour ça que tu vis. Et c'est ça que tu cherches à obtenir à tout prix. Peu importe le coût, peu importe le sacrifice. Et ça va corrompre ta religion. Et c'est quelque chose qui va détruire ta religion. Et ça le détruit encore plus que deux loups affamés qui courent derrière des moutons. Qu'est-ce qu'ils vont laisser, ces deux moutons-là? De ces moutons, qu'est-ce qu'ils vont laisser ces deux loups de ces moutons-là? Rien d'autre excepté une carcasse, hein, et des ossements. Et le reste, ces moutons-là sont finis, hein, c'est clair. Eh bien, ta religion, elle devient comme ça aussi. Il reste qu'une carcasse à la fin, hein. Il reste plus rien de la réalité de ta foi. Et ensuite, on peut continuer en disant, Inna sahaba al-awa'il. رضي الله عنهم تركوا الدنيا لله سبحانه وتعالى فالمهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون رضوان الله عكس ما يفعله كثير من المسلمين اليوم الذين تركوا بلاد الإسلام ليعيشوا في بلاد الكفر والشرك والإلحاد لا لشيء إلا الحصول على متاع الدنيا وملذاتها الفانية والأنصار باعوا أنفسهم لله وآثروا إخوانهم على أنفسهم نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان الله تعالى قد أيدهم في بدر فلما كانت واقعة أحد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه على الجبل يحمون ظهورهم وصاهم أن لا يبرحوا أماكنهم حتى يرسل إليهم سواء رأوا نصرا أو هزيمة فلما هزم الله المشركين وفروا هاربين رأى بعض الرماة الغنائم فقال بعضهم الغنيمة أي الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا والله لا نأتين الناس لنصيبن من الغنيمة يعني نعم تركوا مواقعهم لأجل شيء من الغنيمة فكان ما كان من البلاء العظيم ولا شك أن هناك شبه بين الذين نزلوا من موقعهم العالي لأجل الغنيمة والذين تركوا بلادهم الإسلامية لبلاد الكفار من أجل شيء من الدنيا أي نعم donc يعني on voit aujourd'hui, yani parmi les exemples, si on compare avec les Sahaba, au début, quand ils ont fait la hijra, ils ont quitté ce qu'ils avaient de dunya, hein, pour Allah Azza wa Jal. Les premiers qui ont fait la hijra, ils ont quitté leur demeure à Mecca, leurs biens qu'ils possédaient, leurs richesses, en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est le contraire de ce que les musulmans aujourd'hui font, hein, parfois. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les musulmans qui sont dans cette même situation-là. Parce que parmi les musulmans qui sont venus vivre chez les koufars, il y a différentes catégories. Il y a ceux qui étaient riches dans les pays musulmans et qui ont vendu leurs biens et qui sont partis vivre chez les koufars. Hein? Et ça, c'est l'exemple de ce qu'on a dit. Mais eux, sont partis vivre chez les koufars pour essayer de vivre mieux que ceux qu'ils avaient dans les pays de l'islam. Hein? Donc, il y a cette catégorie-là. Et il y a ceux qui, dans les pays de l'islam, avaient peu et qui ont quitté les pays de l'islam pour aller dans les pays de kufr pour obtenir ce qu'ils n'avaient pas dans leur pays d'origine. Tandis que, yani, parmi les sahaba, il y en a effectivement qui étaient riches à Mecca, parmi les musulmans, et qui ont quitté le confort et l'argent et le bien qu'ils possédaient, et qui sont partis s'installer à Médine, dans un endroit étranger, un endroit où ils n'avaient personne, où ils n'avaient rien, hein, et ils ont tout abandonné pour Allah Azzawajal. Tandis que les musulmans aujourd'hui délaissent les pays de l'islam pour aller vivre chez les kuffars, dans des pays dans lesquels il y a le kufr, le shirk et l'athéisme apparent, hein, la mécréance, l'idolâtrie et disons, la perversité ouverte, hein. Et ils n'ont fait ça pour rien d'autre que pour obtenir des plaisirs de la dunya, hein, et la jouissance de ce bas monde. Et donc, quand on voit par exemple l'exemple des Muhajirines, eux qui avaient quitté Mecca pour aller à Médine, il y a aussi les Ansar, hein, qui ont accueilli leurs frères Muhajirines et qui ont sacrifié beaucoup de ce qu'ils possédaient pour aider leurs frères qui venaient vers eux, s'installer dans les pays, hein, dans le pays de l'islam. Hein? Et Allah Azzawajal, par la suite, on a vu, a donné la victoire aux musulmans à la bataille de Badr contre les mushrikines. Et ensuite, il y a eu la bataille de Uhud. Hein? Et vous connaissez un peu ce qui s'est passé dans cette bataille-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé des archers sur une petite colline et il leur a ordonné de rester là-bas, peu importe ce qui se passe dans la bataille. D'accord? Pour protéger, hein, le dos des musulmans. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, eh bien, yani, lorsque les musulmans ont commencé à avoir la victoire, eh bien, certains parmi les musulmans ont dit, oh, ça y est, on a la victoire, les musulmans commencent à gagner, les koufas sont partis en fuite, donc il faut descendre pour ramasser le butin. Mais il y en a d'autres qui ont dit, parmi les musulmans, entre autres Abdullah ibn Jubayr, qui était celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis comme étant le responsable des archers, hein, l'amir parmi eux. Et il leur a dit, est-ce que vous ne vous souvenez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peu importe ce qui arrive, restez à vos places et ne bougez pas. Et les autres ont dit, non, mais si on n'y va pas, on ne va pas avoir le butin. Alors, ils ont abandonné leur place pour aller, hein, courir derrière le butin. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Les koufars ont saisi cette opportunité-là. Quand ils ont vu que le dos des musulmans n'était plus protégé, eh bien, ils les ont attaqués par derrière. Et la bataille a repris. Et on a vu par la suite qu'est-ce qui est arrivé. Beaucoup de pertes de vie et de biens du côté des musulmans à cause de cette désobéissance-là. Et donc, on peut faire un parallèle entre ce que les musulmans à l'époque avaient abandonné en quittant leur position pour descendre, courir derrière le butin, et l'exemple des musulmans aujourd'hui qui ont quitté leur pays d'origine, pour aller vivre chez les koufars qui ont délaissé leur pays d'islam et les pays de, hein, où il y a le tawhid et la religion, pour aller vivre parmi les ennemis d'Allah, parmi les koufars, parmi les mushrikines, dans le but d'obtenir la dunya. Hein? Allah al-musta'an. ثم أنزل الله قرآنا يتلى يبين فيه سبحانه علة المصاب فقال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Donc ça c'est des versets dans sourate al-Maïda ou dans sourate al-Ma non pardon sourate al-Imran. Dans ces versets Allah Azza wa Jal il explique que يعني, Allah Azza wa Jal il dit Allah vous avez confirmer sa promesse hein, et réaliser sa promesse lorsque vous les tuiez par la permission d'Allah. Mais, yani, ensuite, vous avez eu l'échec et vous vous êtes disputé, vous avez contesté les commandements qui vous avaient été donnés et vous avez désobéi après avoir vu ce que vous aimiez, hein, des butins. Et après, Allah Azza wa Jal, il dit, parmi vous, certains veulent la dunya, et parmi vous, d'autres veulent l'au-delà. Puis, ensuite, il vous a détourné de cela pour vous éprouver, et il vous a pardonné. Et Allah a certes est certes le détenteur de la grâce pour les croyants. Donc, on voit dans cet exemple-là ce que peut faire l'amour de la dunya. Et le fait de chercher la dunya. ماذا يمكن أن تفعل إرادة الدنيا وإلى أين تبلغ بصاحبها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش رواه البخاري إن عبد الدراهم والدنانير وعبد الثياب والمتاع وعبد الشهرة والسلطان لا يرضيه ولا يغنيه إلا حصوله على الدنيا مهما كان الثمن حتى لو باع دينه لأجل ذلك. Donc, qu'est-ce que peut créer ou amener comme conséquence néfaste le fait de chercher uniquement la dunya et de vouloir uniquement la dunya, hein? Et jusqu'où cela peut l'amener. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari que périsse l'adorateur de l'or et de l'argent, que périsse l'adorateur des vêtements, des beaux vêtements. Si on lui donne, il est satisfait, et s'il ne reçoit pas ça, il est en colère, il est insatisfait. Et qu'il périsse, hein, et qu'il retourne, hein, dans qu'est-ce qui est mauvais, c'est-à-dire c'est comme si on dit one takasa, c'est-à-dire ça veut dire qu'il revient sur sa foi, qu'il revient sur sa religion. Et il dit c'est comparable à un hameçon ou une épine. Lorsque l'hameçon rentre, elle ne peut pas sortir, hein, elle est bloquée. Et donc lorsque quelqu'un est piqué par la dunya, c'est comme s'il était piqué par un hameçon. Elle rentre, mais elle ne peut pas sortir. Cet amour-là est difficile à enlever du cœur par la suite. Et donc, c'est ça la fitna de la dunya. Et c'est ça qui amène beaucoup de gens à l'égarement, surtout à notre époque. Allah al-Musta'an. Et donc, l'adorateur de l'or et de l'argent et des beaux vêtements et des jouissances de ce bas monde, et ceux qui également sont des serviteurs et des esclaves de la célébrité et de l'autorité et du pouvoir, ils ne sont satisfaits par rien d'autre que par l'obtention de la dunya. Hein? Peu importe le prix qu'ils vont dépenser ou payer pour l'obtenir, et certains vont même parfois jusqu'à vendre leur religion, hein, pour l'avoir. Et donc ça c'est le danger, Allah al-Musta'an. Donc la course effrénée vers la dunya. Ça, c'est un grand danger pour les musulmans. Al-hirsu ala dunya wa itharuha huwa alladhi hamala al-kafara ala ikhtiyar al-kufr ala al-iman wa at-tafriṭ bi liqa'i Allah wa na'im al-akhirah. ولقد رأوا الدين والإيمان والاستسلام للشرع يحول بينهم وبين ملذات الدنيا فآثروها على الله قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم. Donc, la course vers l'argent, vers la dunya, est préférer la dunya à la foi, préférer la dunya à l'au-delà, c'est ce qui a amené des gens parfois même à délaisser même la foi et à abandonner la foi, et à négliger la préparation pour la rencontre d'Allah Azza wa Jal et pour les délices de l'au-delà. Donc, quand ils ont vu la dunya, Allah al-Musta'an, ils ont vu que la foi, ils ont vu que la religion était un obstacle pour obtenir leur plaisir et pour obtenir l'aisance qu'ils recherchent. Quand ils ont vu que dans la soumission à la loi d'Allah Azza wa Jalla, il y avait un obstacle pour eux à obtenir leur désir, eh bien, yani, ils ont préféré la mécréance, ils ont préféré aller vivre chez les koufars et se rapprocher des koufars plutôt que la foi et la religion. Et Allah Azza wa Jalla, il mentionne parmi les conséquences de ça, la mécréance. Et il donne comme exemple, il dit celui qui a renié la foi après avoir celui qui a renié la foi en Allah Azza wa Jalla après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint et que son cœur est dans la sérénité de la foi. Mais celui dont le cœur s'ouvre complètement à la mécréance, eh bien ils auront la colère d'Allah et un châtiment immense. Parce qu'ils ont préféré la vie de la dunya à l'au-delà. Et parce que Allah Azza wa Jalla ne guide pas les peuples mécréants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans le hadith, dépêchez-vous, précipitez-vous à faire les bonnes œuvres avant que viennent des fitanes, des tribulations et des épreuves qui sont plus sombres que des tranches de la nuit ténébreuses. Et dans ces épreuves-là, l'homme, il va se lever le matin, il va être croyant et au soir, il va être mécréant. Ou il va se coucher croyant le soir et le matin, il sera mécréant. Il vendra sa religion pour une part de la dunya. Et ça, c'est rapporté par Muslim. Al-hirsu ala dunya wa itharuha huwa alladhi hamala ahbara ahli al-kitab ala tahrif kitabihim. ويحمل أمثالهم من أئمة الضلال على تبديل الشريعة حبا في المال والشرف والرئاسة قال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الحرص على الدنيا وإيثارها هو الذي حمل المجرمين على الاعتداء على النفوس والأعراض والأموال سعيا للثراء والشهرة والمناصب والزعامات وقضاء الملذات والنزوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. Donc ici on voit ensuite que la course effrénée vers la dunya et le fait de préférer la dunya à l'au-delà, ça a amené les gens du livre, les rabbins parmi les gens du livre et les moines et les gens qui avaient la connaissance parmi eux à déformer la réalité de leur livre à déformer le texte, à déformer même la compréhension du texte, et ça les a amenés à yani, s'égarer et à égarer les autres. Et ça a amené aussi d'autres parmi les imams de l'égarement, parmi certains musulmans qui ont dévié de la sunna. Ça les a amenés à essayer de changer la charia d'Allah Azza wa Jal, à déformer le sens, ou à déformer, même parfois essayer de déformer le texte, même parfois déformer les preuves de la révélation, pour obtenir ce qu'ils voulaient comme richesse et comme statut et comme pouvoir et notoriété. Et Allah Azza wa Jalla, il mentionne cela à propos des gens du livre dans le Coran. Il dit, et lorsque Allah Azza wa Jalla a pris l'engagement avec ceux qui ont reçu le livre, en leur disant, vous allez clarifier ce livre pour les gens et vous n'allez pas leur cacher. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu pour un vil prix. Et quel mauvais est leur échange. Quel mauvais échange ils ont fait. Allah al-Musta'an. Donc la course effrénée vers la dunya et le fait de la préférer à l'au-delà, c'est également ce qui a amené des criminels à transgresser contre les gens et à transgresser contre leur personne, contre leur honneur et contre leur bien, et à essayer de faire ça dans le but d'obtenir l'argent et la célébrité ou la popularité, et obtenir des postes et des statuts et des d'avoir du pouvoir, et tout ça pour obtenir des plaisirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Muslim, préservez-vous contre la cupidité, car la cupidité, c'est ce qui a fait périr ceux qui étaient là avant vous et qui les a amenés à faire couler le sang de certains d'entre eux et à essayer de rendre licite ce qui est sacré de leur honneur et autres. Donc ça, c'est un exemple encore. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتخوف على أصحابه هذه الدنيا فيقول لهم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour ses compagnons et pour les musulmans de cette umma vis-à-vis de la dunya. Et il les avertissait de faire attention et de prendre garde à la dunya. Et il disait, par Allah, je vous jure que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Mais plutôt, je crains que la dunya soit ouverte complètement pour vous. Comme elle a été accordée à ceux qui étaient là avant vous. Puis que vous commenciez à vous faire la course les uns aux autres pour obtenir la dunya et que vous périssiez comme ils ont péri. Comme ils ont péri, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, parmi les juifs et les chrétiens et les autres peuples. Ils ont obtenu la dunya, ils ont fait la course effrénée derrière la dunya et se compétitionnaient les uns les autres pour l'obtenir, sans tenir compte de quoi que ce soit de ce que Allah a interdit, et sans faire attention à ce qui est halal ou haram. Et le résultat, c'est qu'ils ont péri. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains musulmans s'imaginent que ces koufars-là, ils ont réussi ou qu'ils ont le succès. Mais en réalité, Allah al-Musta'an, ils ont complètement perdu la foi. Ils se sont complètement égarés. Et ils ont complètement rejeté leur livre. Donc, quelle réussite ça? Ça, c'est quelle réussite? Au jugement dernier, ils vont réaliser qu'ils sont les plus grands perdants. الحرص على الدنيا وإثارها هو الذي حمل أهلها على أكل الربا والرشوة وسرقة أموال وسرقة الأموال والغش والتطفيف. يعني أولم يقولوا يوما لشعيب عليه السلام حين أنكر عليهم فساد فعلهم في بيعهم وتجاراتهم يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يريدون التحرر من قيود الشريعة التي تمنعهم من ظلم العباد وسرقتهم وسرقتهم ويسعون للتلذذ ولو بالمال الخبيث. Donc on voit par exemple que la course est freinée vers la dunya et le fait de la préférer, eh bien c'est ce qui a amené les gens à consommer le riba et à faire des réchois. Réchois, c'est le fait de chercher à obtenir des pots de vin et des bakshish, comme on appelle, et de voler l'argent des gens et de tricher et de fausser les balances pour le poids et de falsifier les balances et les volumes pour tromper et pour tricher et pour voler les gens. Et n'est-ce pas que Shu'aib a dit, c'est-à-dire le peuple de Shu'aib avait dit au prophète Shu'aib alayhi salam, lorsqu'il leur a reproché de faire le désordre et la corruption dans leurs affaires et dans leur commerce, il leur disait d'être honnête et de ne pas tromper, de ne pas tromper les gens dans le volume et dans les poids et dans la balance. Et eux ont dit, ô Shu'aib, est-ce que ta demande nous ordonne de délaisser ce que nos ancêtres adoraient? Donc, est-ce que tu nous ordonnes d'arrêter de faire le shirk et de faire ce que nous voulons avec nos biens? Donc, ils veulent se libérer des limites de la charia et des règles de la charia qui leur empêchent de faire l'injustice et de voler les biens des gens, alors que eux, eh bien, ils font tout pour essayer d'obtenir l'argent, même si c'est de l'argent sale, pour obtenir leur plaisir et leur bien. الحرص على الدنيا وإيثارها هو الذي جعل المخلفين ينقلون عن الجهاد في سبيل الله ويثاقلون إلى الأرض ويخذلون إخوانهم بل ربما يتآمرون مع أعدائهم عليهم ويسارعون فيهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Donc, on voit que l'amour de la dunya et le fait de préférer la dunya à l'au-delà, c'est ce qui a également amené beaucoup de musulmans même à délaisser le combat dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah Azza wa Jal et pour protéger la religion d'Allah, et qui les a fait devenir lourds sur la dunya. Ils deviennent pesants et lourds, ils ne veulent pas se lancer dans le combat, et ils vont même parfois déserter leurs frères et refuser de leur venir en secours lorsqu'ils ont besoin de leur secours. Peut-être même qu'ils vont comploter avec les ennemis contre eux. Et ça, on l'a vu. On l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire, et entre autres pendant la colonisation, par exemple. Eh bien, c'est vrai que la majorité des musulmans étaient insatisfaits et qu'ils voulaient se débarrasser des colonisateurs et de les chasser. Mais parfois, quand c'était le temps de combattre et que c'était le temps de les chasser ou de prendre les armes contre les ennemis, eh bien, il y en a qui n'étaient pas d'accord pour faire ça parce qu'ils voulaient s'attacher à la dunya. Et il y en a d'autres même qui se sont mis avec les envahisseurs, avec les colonisateurs, contre les musulmans, pour pouvoir obtenir quelque chose de la dunya en échange. Donc, on a vu de ces exemples-là dans l'histoire, Allah al-Musta'an. Et il y a eu toujours des hypocrites parmi les musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont, nasallallahu alayhi wa sallam, des hypocrites qui préfèrent les kuffars et le kufr aux musulmans et à l'islam. Et Allah azzawajal, il dit, « Oh, vous qui avez cru, qu'avez-vous ?» Lorsqu'on vous demande de vous lancer dans le sentier d'Allah, vous devenez lourd et pesant sur la terre. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous plus satisfait par la dunya que l'au-delà? Alors que, en réalité, les plaisirs et les jouissances de la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà sont très peu. Et si vous vous ne vous lancez pas au combat, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux et il vous échangera par un autre peuple, hein, et vous ne lui causerez donc aucun tort. Et Allah a le pouvoir sur toute chose. Donc Allah Azzawajal, il n'a pas besoin de nous. Et Allah n'a pas de lien de parenté avec aucun d'entre nous. Et si on refuse de respecter ses ordres et de suivre ses commandements, il peut nous remplacer par d'autres, hein, qui vont être plus sérieux que nous et plus sincères que nous et qui vont faire ce que Allah leur ordonne. D'accord? Donc ça, c'est un rappel aussi. C'est important de se rappeler de ça. Ensuite, hein, ma haqiqat ad-dunya bimata'iha wa manasibiha wa ladhatiha yuhaddithuna an haqiqatiha rabbul alamin fa yaqulu wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est la réalité de cette dunya, de ce bas monde, et de toutes les jouissances et de toutes les positions et des plaisirs qu'il peut y avoir dans cette dunya, dans ce bas monde? Qu'est-ce que c'est quoi la réalité de tout ça, hein? Et il est clair que yani, c'est une jouissance trompeuse. Une jouissance trompeuse. Il n'y a rien d'autre. Hein? C'est la seule réalité. Tout ce que vous pouvez avoir dans ce bas monde ici, c'est quelque chose qui est éphémère et temporaire. Vous pouvez en profiter pendant un certain temps, mais après, ça disparaît. Regardez par exemple les fleurs. Hein? Quand vient le printemps, là, il y a les fleurs et il y a toutes les la verdure et toutes les choses qui vous éblouit. Hein? Eh bien, tout ça disparaît. Une fleur, là, quand elle est fraîche, elle est belle, vous la voyez, après elle devient usée, elle devient vieille, elle s'assèche et elle s'effrite et elle devient après de la poussière. Même la plus belle des femmes, hein, vous prenez la plus belle des femmes, celle, la femme que tous les hommes pourraient désirer. Eh bien, quand elle est fraîche, elle est jeune, eh bien, elle est attirante, tout le monde la trouve belle. Mais une fois qu'elle commence à vieillir, elle devient vieille, hein, 60 ans, 70 ans, hein, plus personne ne pense à elle et plus personne ne la désire parce qu'elle est devenue vieille. Eh bien, c'est comme ça la dunya. La dunya, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est temporaire, qui est éphémère, qui est court. Tandis que l'au-delà, c'est quelque chose qui est éternel. Hein? Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Et si quelqu'un ne comprend pas cette réalité-là, il ne va pas comprendre la réalité de l'importance de la hijra. Hein? Allah musta'an. Yuhaddithuna an haqiqatiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqulu law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha shurbata ma. Rawahu at-Tirmidhi. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la réalité de cette dunya, il dit, si cette dunya avait pour Allah la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné une goutte d'eau ou une gorgée d'eau à un kafir. Et on voit que les koufars aujourd'hui, ils ont beaucoup plus qu'une gorgée d'eau. Hein? Ils ont l'eau, ils ont l'or et l'argent et le miel et tous les plaisirs de la dunya. Et ça, c'est pas tous les koufars, bien sûr. On sait que parmi les koufars, il y en a qui n'ont pas tout ça. Mais c'est pour dire que même ceux qui n'ont pas tout ça, même si cette dunya, elle valait quelque chose pour Allah, même l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas une gorgée d'eau. Hein? Donc ça veut dire que cette dunya, pour Allah, elle ne vaut pas grand-chose. Hein? Pourtant, pour les munafiqines et pour les kuffars, la dunya, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien d'autre. « Ma ahwanu dunya ala Allah » إنها بما فيها من ملذات ومتاع لا تساوي عنده جناح بعوضة فما ربح من باع الآخرة بما لا يساوي جناح بعوضة. Il dit, comme la dunya a peu d'importance pour Allah. Il dit, tout ce qu'il peut y avoir dans la dunya comme plaisir, comme jouissance, ça n'équivaut même pas à l'aile d'un moustique. Donc, peu importe qu'est-ce que tu peux gagner comme jouissance et comme bien hein, par rapport à ce bas monde, yani, qu'est-ce que tu gagnes de ce bas monde, ça n'a rien de, comme valeur. Et yani, ça n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique par rapport à l'au-delà. Naam. وَلَقَدْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالسُّوقِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكْ مَيِّتْ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالْ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمْ فَقَالَ الصَّحَابَ مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Donc ça c'est rapporté par Muslim. Et dans ce hadith, il mentionne, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé dans un souk et il a trouvé un animal mort sur le bord de la route. Et il l'a pris par son oreille puis il leur a montré. Il dit, lequel d'entre vous aimerait avoir ça pour une pièce d'argent? Et les sahabes ont dit, on n'aimerait même pas la voix, même si c'était gratuit au messager d'Allah. Qu'est-ce qu'on ferait avec? Et il dit, alors, est-ce que vous aimeriez la voir? Ils ont dit, non, par Allah, même s'il était vivant, il a un défaut. Hein? Il n'est pas bon. Donc, que dire lorsqu'il est mort? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, eh bien, sachez que pour Allah, la dunya a moins de valeur que cette carcasse là pour que cet animal mort pour vous. La dunya pour Allah a moins de valeur que cet animal mort représente pour vous. Subhanallah. Alors que malgré ça, tu vois aujourd'hui certains musulmans, ils vivent dans cette dunya comme si leur paradis c'était dans ce bas monde et comme si c'était le but absolu de leur existence, d'obtenir le plus de richesses et de vivre dans la vie la plus aisée et le confort le plus absolu. Ensuite, يعني إخوة الإسلام إن الموقن بلقاء الله وعظيم ثوابه لعباده وثوابه لعباده المتقين يؤثر مرضاته سبحانه على شهواته وملذاته لا يبيع دينه بالدنيا وما عليها يؤمن بأن الدنيا بما فيها ثمن قليل بل لا شيء بالنسبة إلى الآخرة وها هو رب العالمين يصف الداء والدواء فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد كيف لا يكون الجنة خيرا وأعظم وأطيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب رواه البخاري وكيف لا يكون هو كيف لا وهو يقول ولو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدا سواره لا طمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم رواه أحمد. Donc pour comparer la grandeur de l'au-delà par rapport à ce bas monde, eh bien, il y a des exemples que Allah Azza wa Jal nous a mentionnés dans le Coran. Et il dit par exemple que Allah Azza wa Jal, il a embelli pour les hommes, ou a été embelli pour les hommes, l'amour des plaisirs des femmes, des enfants. C'est-à-dire, on aime avoir des enfants, on aime avoir des femmes, on aime avoir des montagnes d'or et d'argent. On aime avoir des montures, des chevaux, des voitures ou des bestiaux, des champs, des terres. On aime avoir des propriétés. On aime avoir toutes ces richesses-là de la vie d'ici-bas. Tout ça, c'est des jouissances de la vie d'ici-bas. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit, mais ce qui est auprès d'Allah est une meilleure demeure pour les croyants. Et il dit ensuite, « Dis, voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur pour vous ?» Pour ceux qui ont eu de la piété envers leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et des épouses purifiées, et une satisfaction et un agrément de la part d'Allah. Et Allah, certes, et clairvoyant, et Allah Azza wa Jal certes est voyant, et il voit parfaitement ce que font ses serviteurs. Donc ça, c'est pour dire que peu importe qu'est-ce que tu peux avoir par exemple comme plaisir dans ce bas monde, tout ça c'est éphémère et c'est temporaire, et tandis que l'au-delà c'est éternel. Donc il n'y a pas de comparaison entre peu importe la chose que tu peux préférer de l'au-delà dans ce bas monde, eh bien, il n'y a pas de comparaison possible. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans les hadiths, comme ce qui est rapporté par Al-Bukhari, que la distance qui est occupée par l'espace qui est occupé par un arc dans le paradis est meilleur que la dunya, et tout ce que le soleil peut, tout ce sur quoi se lève le soleil et se couche. Ça veut dire que tout ce qui est sur la surface de la terre, eh bien, ça peut même pas être comparable à l'espace d'un arc, un arc avec lequel on tire des flèches dans l'au-delà. Donc, l'espace occupé par un arc dans l'au-delà, dans le paradis, ça vaut plus que tout ce que le soleil éclaire sur la surface de la terre, ce sur quoi il se lève et ce sur quoi il se couche. Donc, ça veut dire la terre entière. Et dans un autre hadith, il mentionne que s'il y avait l'espace plus petit que l'espace d'un ongle, de ce qui est dans le paradis, si cet espace, l'espace d'un ongle, c'est tout petit un ongle, eh bien si cet espace d'un ongle qui est dans le paradis était apparent pour nous, eh bien ça aurait enjoliver tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que si on pouvait voir apparaître seulement l'espace d'un ongle de ce qui est dans le paradis, ça aurait ébloui et enjolivé tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Et dit, et même si par exemple un parmi les hommes du paradis nous montrait juste un seul de ces bracelets qu'il a dans le paradis, eh bien ça aurait dépassé l'éclat du soleil, de la même manière que le soleil efface l'éclat des étoiles. Et ça, c'est rapporté par Ahmad. Donc comment tu peux essayer de comparer ce bas monde avec l'au-delà? Donc les gens qui aiment la dunya au point d'oublier l'au-delà, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de ce bas monde et ils n'ont pas compris la valeur de l'au-delà non plus. وَكَيْفَ لَا تَكُونُ أَطْيَبُ وَأَعْظَمُ وَغَمْسَةٌ فِيهَا تُنْسِي الْعَبْدُ كُلَّ شَقَاءٍ وكيف لا تكون أطيب وأعظم نعيمها رؤية وجه الجليل الأكرم. سبحان الله. Donc, si, par exemple, il dit comment on ne pourrait pas réaliser l'importance de l'au-delà, hein? Alors que si tu, on te trempait dans le paradis une seule fois, hein, ça dit tu restais dans le paradis pendant juste une fraction de seconde, ça te ferait oublier tous les malheurs et les souffrances que tu as pu subir dans ce bas monde. Alors comment ça pourrait pas être meilleur que la dunya? Et de même que dans le paradis, tu as le plaisir qui est le plus grand de tous les plaisirs, c'est de pouvoir regarder le visage d'Allah Azza wa Jal. Alors comment est-ce que l'au-delà ne serait pas meilleur que ce bas monde? Wa inna al-'abd mata 'alima dhalik athara al-akhirah 'ala kulli shahawati ad-dunya wa lam yarda an yabi'aha bi'arad za'if za'il bal tasihhu 'indahu التصورات فيجعل الدنيا مزرعته للآخرة وتصبح أدنى الطاعات خيرا من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم رواه الطبراني. Donc يعني le serviteur, quand il comprend l'importance de l'au-delà et la valeur de l'au-delà, il va savoir que ça vaut plus que tous les passions et les désirs de ce bas monde. Et à ce moment-là, il ne va pas être satisfait de l'échanger ou de la vendre pour peu importe ce qu'on lui donne parmi les plaisirs éphémères de ce bas monde. Et donc, à ce moment-là, il va avoir une compréhension et une conception qui est correcte par rapport à ces choses-là. Et yani, il va savoir que yani, la dunya, c'est son champ de labour qui va lui permettre de semer pour obtenir ce qu'il veut dans l'au-delà. Donc c'est comme si ce qu'il fait de bien, c'est ce qu'il a semé dans ce champ, dans cette dunya, et il va le récolter, il va récolter les récompenses et le bien de ce qu'il a fait dans ce bas monde, dans l'au-delà. Et donc, la plus petite et la moindre des obéissances devient, dans ce bas monde, devient pour lui, dans l'au-delà, une grande récompense. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, par exemple, les deux rak'at que tu fais lors du fajr, les deux rakats que tu fais avant la prière obligatoire sont meilleurs que la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit également, le voyage que tu fais dans le sentier d'Allah, le matin ou le soir, c'est meilleur que la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Ça aussi. Et il mentionne également à propos d'une personne qui venait juste d'être hantée, une tombe qui venait juste d'être creusée ou qu'on venait juste d'une personne qu'on venait d'enterrer. Il a dit, deux petites rakades que tu peux faire, que vous méprisez dans ce bas monde, eh bien, cette personne-là, si elle pouvait les faire, cette personne qui vient d'être enterrée, eh bien, elle pouvait augmenter par ces deux rakats, ces bonnes œuvres, ce serait plus aimé pour cette personne que le reste de ce que vous avez dans la dunya. Donc s'il pouvait revenir dans ce bas monde pour faire deux rakats rapides, ce serait préférable pour lui que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Subhanallah. Donc nous aujourd'hui, on méprise on néglige les bonnes œuvres. Et moi je veux vous dire franchement, le fait d'aller juste passer du temps dans les pays musulmans, à chaque année, j'essaie toujours de visiter les pays de l'islam, hein, que ce soit pour aller faire une umra ou bien pour aller, par exemple, dans un autre pays parmi les pays de l'islam. Et juste le fait de vivre là-bas pendant quelque temps, eh bien, je sens l'effet que ça peut avoir sur ma foi, subhanallah. Et je vais vous dire juste un exemple qui m'a le plus choqué, parmi les choses qui m'ont choqué, yani subhanallah, c'est que tu vas dans un pays musulman et tu vois que pour prier dans le premier rang, dans les mosquées, subhanallah, même des fois tu arrives avant le adhan, tu arrives avant l'adhan, puis tu ne trouves pas de place pour prier dans le premier rang, dans la mosquée, subhanallah. Pourquoi? Parce que les gens viennent souvent même avant le premier adhan, pas le deuxième adhan. Le premier adhan, les gens, ils arrivent avant ça. Hein? Et tu vois donc les gens qui viennent et puis, ils ont déjà pris toutes les places. Donc toi, tu arrives avant l'adhan ou avant l'iqama au Canada ou bien en Europe, tu trouves facilement une place dans le premier rang. Mais dans un pays de l'islam, tu viens avant le premier adhan. Avant le deuxième adhan, tu trouves pas de place. Tu viens avant l'iqama, tu trouves pas de place dans le premier rang. Peut-être tu vas trouver dans le deuxième. Et ça dépend aussi de la mosquée. Dans certaines mosquées, tu vas même pas trouver de place dans le deuxième rang. Et ça, c'est un exemple qui te montre à quel point, yani, quand tu vis dans un pays de kofre, yani, tu vois pas ça. Et ça va pas te faire plus d'efforts dans ta foi pour essayer d'atteindre un niveau plus élevé de religion, parce que tu vas toujours te comparer, malheureusement, à ceux qui sont moins que toi, ceux qui sont plus bas que toi dans la foi. Et ceux qui sont plus bas de foi, plus bas que toi dans la foi, sont très nombreux, tandis que ceux qui sont plus hauts que toi, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Tu vas dire, ah, mais dans ce cas-là, je suis parmi les pieux. Oui, mais tu es parmi les pieux, parmi les koufars, et parmi les gens qui sont en dehors de l'islam, ou qui sont juifs ou chrétiens, ou parmi les gens qui aiment la dunya. Mais parmi les musulmans, quand tu vas dans les pays de l'islam, tu réalises ton vrai niveau, toi. Et tout ça, c'est pour dire que si tu veux augmenter ta foi, tu vas voir que dans un pays de l'islam, les choses les actes d'adoration que tu veux faire, tu les fais et ça devient même plus facile pour toi de les faire parce que la société, elle est adaptée à la foi et à la piété. والهجرة تعني التضحية بالدنيا من أجل الآخرة. يترك المسلم المكان وأسباب للرزق والمعارف والأصدقاء. وإذا ثبت أن البقاء في هذا البلد يعيق تقدمه الديني فلا بد أن يهاجر. لذلك الهجرة قمة التضحية بالدنيا من أجل الآخرة وذروة إيثار الحق على الباطل. والهجرة في أدق تعاريفها ليست انتقال رجل من بلده إلى بلد بعيد وليست ارتحالا مفتقرا إلى أرض جدبة إلى أرض خصبة إنها إكراه رجل آمن في سربه ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه والتضحية بأمواله وتصفية مركزه والنجاة بشخصه من أجل أن لا يفتن في دينه المحرك هو الدين والآن هو المال المحرك هو المال فقط عند أكثر الناس ينتقل من بلد يعبد الله رب العالمين فيه إلى بلد فيه من التفلت ما يبعد أكبر مؤمن عن الدين الحركة الآن حركة مالية فقط ويبحث عن مركز وعن منصب وعن مال وعن دنيا وعن متاع أما الهجرة الصحيحة فحركة دينية حركة من أجل الإيمان حركة من أجل أن يعبد الإنسان الواحد الديان. Donc la hijra, ça veut dire faire un sacrifice par rapport à ta dunya, dans le but d'obtenir l'au-delà. Tu abandonnes ton statut, ton risque, tes connaissances, tes amis. Il dit, lorsque tu constates que le fait de rester dans cet endroit-là affecte ta religion. Alors à ce moment-là, tu dois quitter et tu dois faire la hijra. Et c'est pourquoi la hijra, c'est le summum du sacrifice par rapport à la dunya, dans le but d'obtenir l'au-delà. Et c'est le plus haut point de préférer la vérité sur le faux. Et donc, dans la définition la plus précise des définitions de la hijra, c'est pas de quitter un pays pour aller dans un endroit éloigné, comme les gens le disent aujourd'hui. On émigre, hein? On s'expatrie. Non, ça n'a pas rapport. Au contraire, des fois même, c'est le fait de quitter un endroit dans lequel tu es aisé pour aller dans un endroit où tu vas être peut-être plus pauvre. Dans un endroit où il n'y a pas de travail. Dans un endroit où il n'y a pas une vie facile. Tu vas quitter un endroit dans lequel tu es en sécurité et tu as tout ce qu'il te faut. Et où tu as des connexions et tu as des amis et tu as tout ce qu'il te faut, tu vas délaisser tout ça et sacrifier ton argent et tes biens, hein, pour éviter d'être éprouvé dans ta religion et pour préserver ta foi. Donc le moteur qui alimente ta hijra, c'est la religion principalement, c'est pour préserver ta foi, ta religion. Tandis qu'aujourd'hui, les gens, quand ils quittent leur pays, c'est pour la dunya, pour l'argent. C'est ça qui motive les gens en grande partie, hein, et pour rien d'autre. Et donc, ils vont partir d'un pays dans lequel ils adorent Allah pour aller dans un pays, hein, dans lequel même le plus croyant des hommes va avoir de la difficulté à pratiquer sa religion comme il faut. Donc aujourd'hui, le moteur qui motive et qui alimente le besoin des gens de quitter leur pays, c'est économique uniquement, financier seulement. Et ils cherchent à obtenir de l'argent, un travail, un meilleur travail ou des affaires de la dunya. Mais la vraie hijra, la hijra qui est enseignée par l'islam, c'est dans le but de sauver ta religion, de préserver ta foi, de garder ta religion. Et c'est pour ta foi que tu quittes l'endroit où tu es. Pour Allah Azza wa Jal. Pour Allah seulement. Et pas pour rien d'autre. Hein? لو أردنا أن نعرف التطبيقات العملية للهجرة أنت في مكان الفتن فيها كثيرة جدا والاحتمال أن تضعف أمامها احتمال قائم فالهجرة تقتضي أن تترك هذا المكان إلى مكان آخر وقد يكون المكان الآخر أقل دخلا ولكن أكثر أمنا مع الله فالعبرة أن تتحرك إلى مكان يكون أقرب إلى الله من المكان الأول أن تخالط أناسا يقربونك من الله وأن تبتعد عن أناس يبعدونك عن الله وهذه مفاهيم الهجرة صغيرة صغيرة نعيشها ولذلك شتان بين من يعارض الحق وبين من يؤيده وشتان بين من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكذبه وبين من يخرجه وبين من يؤيده وبين من يقاتله وبين من ينصره شتان بين المؤمن وغير المؤمن وما من إنسان على وجه الأرض أشقى ممن وقف ضد الحق كن مع الحق وكن مع أهل الإيمان ولو كانوا ضعفاء فقراء ولا تكن مع أهل العدوان والطغيان ولو كانوا أقوياء وأغنياء. Donc les réalisations et les applications de la hijra sont nombreuses. On voit, comme par exemple, toi tu es dans un endroit où tu as des fitanes dans ta foi, dans ta religion, et tu risques de tomber et d'être faible devant ces différentes tentations-là. Et donc la hijra, ça implique que tu quittes cet endroit-là vers un autre endroit dans lequel tu vas pouvoir préserver ta foi. Et ça peut se faire même dans un pays musulman. C'est-à-dire que tu peux être dans un pays musulman, mais tu vis dans un endroit ou dans un quartier où il y a beaucoup de péchés. tu vas quitter ce quartier-là pour aller dans un autre quartier où il y a des croyants, où il y a des gens pieux, où il y a des ulama, où il y a des tolab ilm, où il y a des gens qui vont te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça le point. Hein? C'est ça, de quitter un endroit dans lequel tu es loin d'Allah pour t'en aller vers un endroit dans lequel tu vas être plus proche d'Allah Azza wa Jal et plus proche de ceux qui te rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable de comprendre et qu'on est capable, Inch'Allah, de mettre en pratique. Et on voit la différence ici entre ceux qui aiment la vérité et qui la défendent et ceux qui croient en le professeur Salam et ceux qui le refusent de croire en lui. Ceux qui veulent l'expulser et ceux qui veulent le supporter. Ceux qui le combattent et ceux qui le défendent. Il y a une différence entre les deux. Et donc, il y a une différence entre le croyant et le non-croyant. Et donc, quand tu regardes sur la terre aujourd'hui, tu vois des musulmans qui quittent les pays de l'islam pour aller vers les pays des koufars. Et certains, et c'est ça qui est le plus choquant, tu dis comment c'est possible que ton pays, il a été colonisé par des koufars pendant peut-être même une centaine d'années. Et du moment que ils ont réussi à les chasser et à les faire sortir, eh bien, la première chose qu'ils pensent à faire, c'est d'aller vivre dans le pays des gens qui l'ont oppressé pendant plus que 100 ans et qui l'ont persécuté pendant toutes ces années-là, pour aller subir la même chose que ceux qui lui ont fait subir dans son pays. Mais maintenant, il va le subir dans leur pays, alors qu'il va être une minorité et qu'il va être humilié et rabaissé et qu'ils vont l'employer pour faire tous les travaux que eux ils ne veulent pas faire parce que c'est des travaux qu'ils considèrent comme étant rabaissants. Et c'est pourquoi les ulama ils expliquent que la hijra, elle est de deux catégories. Et il y a la hijra du cœur et il y a la hijra du corps. Et ça, c'est très, très important à comprendre. « Hunaka darsun min al-hijra »« Min hijrat al-muslimin yahtajoun »« Wa huwa al-tawakkul »« Wa al-tawakkul bil-mafhum al-sahih »« An ta'khud bil-asbab »« Ta'khud bil-asbab »« Wa tatawakkal ala Allah » Donc, tu prends les causes et puis tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et si tu n'as pas fait ta hijra avec le cœur, hein, même si tu veux le faire avec ton corps, yani ça ne va pas être une vraie hijra. Yani comme le dit Ibn al-Qayyim dans son livre, Risalat al-Tabukiyya, il fait la différence entre ces deux types de hijra. Et il parle aussi de la hijra vers Allah, la hijra vers yani le messager. Donc il dit la hijra bil jism min balad ila balad. Donc la hijra avec le corps c'est d'un pays à l'autre. Mais la hijra avec le cœur et ça c'est la base. Hijratun bil qalbi ila Allah wa rasulihi. Wa hadhihi hiya al maqsouda. C'est ça l'objectif et le but principal de la hijra, c'est la hijra avec le cœur avant tout. Donc هذه هي الهجرة الحقيقية. C'est ça la vraie hijra. هجرة الجسد تابعة لها. Donc la hijra que tu fais avec ton corps, ça c'est une hijra qui vient à la suite d'avoir fait la hijra avec ton cœur. Donc si quelqu'un n'a pas fait la hijra avec son cœur, même s'il fait la hijra avec son corps, il ne va pas réussir sa hijra réellement. Et c'est pourquoi aujourd'hui on entend plein de gens qui disent « Ouais, je suis allé faire la hijra, mais finalement c'était trop dur, alors j'ai quitté, je suis retourné dans les pays de Kufr. » En tout cas, les frères et les sœurs, Alhamdoulilah, Subhanallah, je viens de réaliser que cette khutba que j'ai traduit là, c'était pas la bonne. C'était pas celle que j'avais pas enregistrée. Mais c'est pas grave, il y a un rappel quand même dans ça. En tout cas, peut-être qu'il y aura une autre occasion, puis j'aurai une autre occasion de vous traduire la khutba dont j'avais pas fait l'enregistrement. Mais sinon, il y a un rappel de ce que j'ai traduit maintenant. Et je vais m'arrêter tout de suite parce que je dois laisser la place à celui qui va continuer dans la suite de ce séminaire. Donc, qu'Allah accepte, qu'Allah nous donne la sincérité dans nos paroles et dans nos actions, et qu'il accepte nos œuvres, que ce soit dans la balance de nos œuvres au jour de la résurrection. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.